Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la disparition du franc CFA, devise coloniale, entérinée hier à Abidjan par Alassane Ouattara aux côtés d'Emmanuel Macron. Les deux présidents participent en ce moment même à une cérémonie dite de réconciliation à Boaké, 15 ans après le bombardement de la base militaire française. Le mouvement contre la réforme des retraites en France, 18e jour de mobilisation quand les indices grèvent. Le pouvoir appelle à la trêve et le chef de l'État dit renoncer à sa pension, à tout le moins tel que calculé aujourd'hui. Quel rapport de force, commentaire du politologue Pascal Perrineau. À suivre également les enjeux de l'élection présidentielle en Croatie et la face cachée du globe signée Nabila Hamel qui s'attarde ce dimanche sur le soft power du Qatar. La Côte d'Ivoire était alors considérée comme le meilleur allié de la France. Depuis les indépendances, le 6 novembre 2004, l'armée ivoirienne, loyale au président Laurent Gbagbo, bombardait les forces de l'opération Licorne, basée à Boaké, fief de l'opposant d'alors Alassane Ouattara, 9 soldats tués. La suite, riposte française et aujourd'hui encore de multiples zones d'ombre. En cette mi-journée, les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara sont sur le lieu du bombardement pour une cérémonie d'hommage et de réconciliation. À Boaké, Bertrand Galichet.
La commémoration d'un sujet sensible pour la France qui veut sceller la réconciliation avec la Côte d'Ivoire. 15 ans après, le mystère demeure sur les mobiles et les circonstances du bombardement de la base française de Boaké, dans un pays alors coupé en deux par la guerre civile. En novembre 2004, un Sukhoi de l'armée ivoirienne, piloté par un mercenaire étranger, attaque la position de la force Licorne après un vol de reconnaissance, tuant 9 militaires français et un ressortissant américain. Une quarantaine d'autres personnes sont blessées. En représailles, Jacques Chirac ordonne aussitôt la destruction de plusieurs appareils de l'aviation militaire ivoirienne. C'est pour tourner la page de cette affaire qui a conduit à l'évacuation de milliers de Français et à un gel des relations diplomatiques qu'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont sur place aujourd'hui. Un hommage rendu aux victimes et aucun commentaire sur le fond. Le président français se retranche derrière l'instruction judiciaire en cours. Un procès est attendu l'an prochain. Les familles, depuis 15 ans, attendent toujours de connaître la vérité.
Une réconciliation moyennant cette fois une rupture. Rupture avec le franc CFA, acronyme irritant CFA, colonie française d'Afrique. Devise en sursis, l'écho, arrimé à l'euro, deviendra la monnaie de 150 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest l'année prochaine. Écoutez François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Il répond aux questions d'Alicia Miami.
Moi, je pense que c'était devenu indispensable politiquement, d'abord parce que on a entendu récemment, il y a des critiques qui sont formulées à l'égard de la France, particulièrement dans le domaine de la présence militaire de l'opération Barkhane, qui prennent incontestablement ces critiques au sein de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest. Alors, systématiquement, il faut savoir, le corollaire de ces critiques, c'est la critique du franc CFA. Les deux sont extrêmement liés, et pour les présidents africains eux-mêmes, confrontés à ce type de problème, le changement symbolique était important, d'autant que ça s'est perçu par beaucoup au sein de l'opinion africaine comme un outil de servitude, d'aliénation, de subjugation depuis 1945, ce franc CFA, et un sentiment qui est finalement ancré dans l'histoire, bien au-delà de ce décret pris par le général de Gaulle en décembre 1945, et qui remonte pratiquement à l'époque précoloniale, quand les commerçants négriers européens ont organisé la faillite des royaumes africains en les privant de la maîtrise de leur masse monétaire. Donc c'est quelque chose qui remonte à il y a très longtemps. Fini la référence au franc avec ses relents de colonialisme. Et puis la présence très symbolique d'administrateurs français envoyés par Bercy au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, tout cela va disparaître. Maintenant, la vraie rupture, elle n'est pas là, elle sera plus tard. Il faut savoir que l'écho, cette nouvelle monnaie, a vocation à devenir la monnaie unique de toute l'Afrique de l'Ouest.
Et la France, oui, ne siégera plus dans les organes de décision et de gestion de l'UEMOA, Union économique qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Le Sénégal qui œuvre à une conversion d'une autre nature, conversion écologique. C'est un reportage de William Delesseux de RFI dans le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest, dans le village de Taïba Ndiaye, à une centaine de kilomètres de Dakar.
Des éoliennes à perte de vue plantées en file indienne pour mieux faire face au vent. Elles ont remplacé certains arbres Abdou Mbeng, agriculteur, a perdu son champ.
Mon champ est gâté. Ils ont divisé ça en deux. La route est passée en deux là-bas. Ça reste que deux petits portions. Qu'est-ce que je vais faire là-bas?
Dans le village voisin, Taibandiaï, Gainsal est en colère contre les éoliennes.
La centrale éolienne ne nous apporte rien. Elle a accaparé toutes nos terres autour du village. On peut difficilement y cultiver quelque chose. Ça n'arrange pas les agriculteurs et les jeunes comme nous.
Le parc avait pourtant promis de compenser les effets d'une telle installation auprès des habitants en recrutant du personnel local. Cherndiaï est aujourd'hui au chômage.
J'étais en contrat court chez eux et ils ne m'ont pas renouvelé. Pour recruter, le parc ne cible que ceux qui ont une expérience de 5 ans. Et cela pose problème. Ici, ça n'existe pas.
Pour Yacine Majdala, le directeur du parc, le recrutement est transparent. Les éoliennes, une chance pour la région.
Donc ça va encourager aussi beaucoup plus d'investisseurs à se mettre en place. Et donc ça va encourager de l'emploi. Et ça va, c'est ainsi de suite. C'est toute une boucle.
En tout, 410 agriculteurs affectés par le projet ont été indemnisés. Le parc privé va revendre son électricité pendant au moins 20 ans aux distributeurs publics du Sénégal.
En France, la réforme des retraites et la poursuite d'un mouvement, entre autres à la SNCF, la RATP dans les raffineries, des négociations grippées, Matignon arc-bouté sur l'âge pivot à 64 ans, des ouvertures sur la pénibilité et un président de la République qui, depuis Abidjan, dit renoncer à sa pension de retraite, dotation d'un peu plus de 6 000 euros par mois. Quid du rapport de force sur ce dossier au 18e jour de grève? Élément de réponse avec le politologue Pascal Perrineau, sollicité par Diane Berger.
Le président cherche, dans la perspective d'un acte 2 du quinquennat qui serait, entre guillemets, plus social que la première partie, à envoyer des signes. Tout cela reste un acte de communication et je ne crois pas que ce soit ce type de prise de position qui puisse faire évoluer fortement le rapport de force quant à la perception du mouvement social sur le système des retraites. Les Français, vous savez, commencent à rentrer dans le détail, à faire leurs calculs, à se projeter sur ce que ça coûtera ou non pour leur génération, pour la génération de leurs enfants. Donc on voit bien que dans cette bagarre de l'opinion, pour l'instant, les éléments favorables au mouvement social l'emportent, mais tout ça peut bouger. Surtout que, on le voit, la tendance est plutôt à l'éternisation de ce mouvement social. Il peut y avoir la lassitude.
Est-ce que la période des fêtes de Noël peut être un point de bascule dans le soutien de l'opinion?
Oui, on le verra dans les jours qui viennent, parce que, quelle que soit d'ailleurs leur position, positive, négative ou indifférente par rapport au mouvement social, les Français sont très attachés à la mobilité au moment de Noël, pour aller voir ses parents, accueillir ses enfants. Donc ce peut être l'occasion, en effet, d'une inflexion dans l'opinion, et on le verra assez rapidement dans les jours qui viennent, une fois que les Français seront revenus de la fête de Noël et de la fête du Nouvel An. On verra dans les premiers jours de janvier si les 60% de soutien et de sympathie qui font d'une certaine manière la force du mouvement sont des 60% qui peu à peu vont fondre au-dessous de la barre de 50%.
Le politologue Pascal Perrineau. En bref, à l'international, grève générale dans deux importantes villes du sud de l'Irak, Diwania et Bassora, et des milliers de personnes de nouveau mobilisées contre les autorités. Le président de la République est censé nommer dans la journée un premier ministre. En Croatie, un scrutin présidentiel ce dimanche qui pourrait affaiblir les conservateurs, menacés sur leur gauche par la social-démocratie et fragilisés sur leur droite par un chanteur populiste. Les précisions de Laurent Rouy, notre correspondant dans la région.
Le principal opposant de gauche, Zoran Milanovic, n'est pas assuré d'aller au second tour contre la très droitière présidente sortante Kolinda Grabar-Kitarovic. Mais un nouveau venu en politique, chanteur populaire du nom de Miroslav Škoro, défend un agenda anti-système. Il pourrait bouleverser l'équilibre entre nationalistes conservateurs et sociaux-démocrates. Škoro veut, une fois président, dissoudre le Parlement pour ouvrir une nouvelle ère en Croatie. Kolinda Grabar-Kitarovic devrait quand même arriver en tête du premier tour. C'est donc la deuxième place qui est en jeu ce dimanche. Škoro espère un meilleur score que le social-démocrate Zoran Milanovic. Milanovic représente certes une alternance, mais son bilan peu flatteur lorsqu'il était premier ministre et ses jeux d'appareil pour éliminer les autres ténors de son parti ont terni son image. La Croatie, qui doit prendre la présidence de l'Union européenne en janvier, pourrait donc traverser une période de turbulence au moment de conduire les débats à Bruxelles. notamment Zagreb défend un élargissement européen aux pays des Balkans, la clarté du message dépendra aussi du résultat de l'élection présidentielle.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Il est depuis mercredi sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par la justice de son pays. L'ex-président bolivien Evo Morales, exilé en Argentine, fait l'objet d'une enquête pour sédition et terrorisme. Le ministre de l'Intérieur l'accuse d'avoir incité ses partisans des régions agricoles à bloquer l'acheminement des denrées alimentaires vers la capitale en proie à de nombreuses pénuries. Evo Morales, le premier président indigène de Bolivie, a démissionné le 10 novembre sous la pression de l'opposition et après avoir été lâché par l'armée. L'Argentine prend des mesures d'urgence économique pour tenter de sortir le pays de la crise. Députés et sénateurs ont approuvé ce plan qui représente une première victoire législative pour le président Alberto Fernandez, entré en fonction le 10 décembre après avoir battu le libéral Mauricio Macri. Ce train de mesures prévoit des augmentations d'impôts pour les classes moyennes et supérieures, des incitations fiscales à la production ainsi que des avantages fiscaux pour les plus démunis. Un gel des tarifs des services publics est également décidé pour une période de 6 mois. Outre une contraction du PIB de 3,1% prévue en 2019 par le FMI, l'année se termine avec une inflation de 55% environ, un taux de pauvreté autour de 40% et un taux de chômage de 10,4%. Un nouveau prêt de 400 millions d'euros a été accordé à Alitalia, mais plus question d'injecter de l'argent public dans cette compagnie en difficulté, annonçait hier le ministre italien de l'Industrie. Après 2 plans de sauvetage en 2009 et 2014, la compagnie aérienne italienne perd 2 millions d'euros par jour et pourrait mettre la clé sous la porte à la mi-2020 si elle ne trouve pas de repreneur. Après le sport, le Qatar a choisi l'éducation pour se faire une place dans la communauté internationale. Un nouveau soft power pour l'émirat qui ne veut plus compter uniquement sur sa rente gazière. Le campus de Doha est ainsi une véritable ville dans la ville. 12 prestigieuses universités étrangères sont venues s'y installer avec un soutien financier considérable de la Fondation du Qatar. C'est un reportage à Doha d'Isabelle Souquet.
À la sortie de la capitale qatari, à l'opposé de la forêt de Tours du centre des affaires, l'immense campus baptisé Education City s'étend à perte de vue. La française HEC a ouvert ici un établissement, mais qu'est-ce qui pourrait faire préférer Doha à Paris pour un étudiant? Réponse de Ahmad Al-Ranji, porte-parole de la Fondation du Qatar.
Si vous êtes intéressé par un domaine particulier, ici vous ne bénéficiez pas seulement de cet enseignement, mais du campus tout entier. À HEC, nous enseignons la gestion d'entreprise. Si vous amenez quelqu'un ici qui est intéressé par ça, il va pouvoir collaborer avec quelqu'un d'une autre université du campus qui a une formation plus technique et ensuite ils pourront produire ensemble quelque chose de magnifique.
La Northwestern University de Chicago a implanté ici une faculté de journalisme. Mais comment travailler dans une région où la parole n'est pas toujours libre? Everett Dennis est le président de l'université américaine.
C'est toujours un défi parce que les lois et les usages au Moyen-Orient ne vont pas dans le sens d'une parole libre. Mais ça change. Nous pouvons écrire sur des sujets controversés comme les travailleurs migrants ou d'autres sujets très sensibles. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut faire attention à respecter les lois locales, mais nos étudiants s'attaquent à des sujets sensibles aussi bien en journalisme que dans leurs documentaires. On combat ces problèmes de censure, de règlement, mais les étudiants doivent travailler dans le cadre défini par l'État. Il y a des sujets sur lesquels il reste difficile d'écrire, mais on essaie d'élargir ce cadre autant qu'on peut. On n'y arrive pas toujours, mais c'est devenu plus facile ces 10 dernières années.
À Education City, il y a aussi un tram pour desservir tout le campus, de grands logements étudiants, séparés pour les hommes et les femmes, on est au Qatar, et la plus grande fierté de la Fondation, la Bibliothèque Nationale, à l'architecture ultra-moderne, spectaculaire, qui renferme 1 million d'ouvrages et un fonds ancien exceptionnel sur le Moyen-Orient. Son responsable, le français Stéphane Hyper, n'échangerait sa place pour rien au monde.
Pour moi, c'est très satisfaisant d'être ici, parce qu'on a aussi des moyens d'abord qu'on n'a pas en Europe. Et d'être au centre d'un campus universitaire comme la Qatar Foundation, il y a une réelle synergie avec la dizaine d'universités qui sont là, avec tout un département qui est énorme, où il y a des milliers de chercheurs avec qui on travaille également, même pour la conservation de nos manuscrits. Donc c'est une telle synergie, une telle dynamique, que c'est vraiment enthousiasmant.
Vous, vous dites, je ne pourrais pas faire ça ailleurs?
Certainement pas, non. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais si vous saviez les budgets que j'ai et les moyens qu'on a à notre disposition... Je crois que l'ensemble des bibliothécaires du monde serait jaloux.
Doha accueille aussi tous les deux ans un sommet international devenu incontournable en matière d'éducation. Le WISE réunit 3000 personnes sur le thème de l'innovation. Énorme succès pour ce rendez-vous, manifestation paradoxale qui célèbre un modèle très libéral mais décerne des prix aux expériences les plus alternatives.
C'était le reportage d'Isabelle Souquet et a signalé concernant également le Qatar que la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit à l'éducation appelait en début de semaine l'Émirat à étendre la gratuité de l'éducation aux enfants de travailleurs étrangers. Elle juge leurs frais de scolarité excessifs. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Amel. À dimanche prochain, quelques mots de la météo. La tempête balaie la moitié sud du pays, de la côte atlantique à la Corse. 80 200 foyers sont privés d'électricité. Les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse sont en vigilance orange pour vent violent. La ville d'Ajaccio est de nouveau accessible. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet, la technique d'Ali Yaha.